La prise de décision. La prise d'une décision juridique est plus complexe que le simple fait de décider si telle ou telle action est légale ou illégale. En effet, il existe des catégories intermédiaires. Le droit islamique traite également la question des sanctions dans le cas d'actes illégaux et dispose de quelques instruments pour éviter que des réglementations créent des difficultés anormales. Les cinq catégories de l'action. En droit islamique, toute action s'insère dans l'une des cinq catégories suivantes. Les actions obligatoires, fard ou wajib, sont divisées en deux catégories, celles comme la prière, requise pour chaque musulman, et celles comme le combat pour la défense de l'islam ou le fait d'assister à un enterrement, que certains accomplissent au nom de la communauté entière. Les actions recommandées, mustahab ou mandoub, sont méritoires mais non requises. La charité et la monogamie volontaire en sont des exemples. Les actions neutres, mubah, n'ont aucune conséquence morale ou légale. Le Coran et la Sunna ne parlent pas de ces actions. Les actions déconseillées, makrouh, comme le divorce, devraient être évitées. Aucune sanction n'est appliquée cependant et elles n'entraîneront pas l'exclusion du paradis. Les actions interdites, haram, sont l'opposé des actions obligatoires. Par exemple, il est interdit d'épouser un parent proche. L'évaluation des sanctions. Attention ! L'islam a mauvaise presse à cause de certaines des sanctions les plus strictes, hudud, qui se trouve dans le Coran. Il s'agit notamment de la peine de mort qui sanctionne le meurtre, le fait de couper la main du voleur et les coups de fouet pour certains autres actes. Hudud, qui signifie littéralement limite, borne, est le terme arabe employé pour la sanction de ces crimes conformément à la punition exigée par le Coran. Une tradition dit qu'il faut éviter les punitions du had, singulier de hudud, en cas de doute. Cette tradition signifie que l'on ne doit appliquer les sanctions de hudud qu'en dernier recours. La mise en œuvre de ces sentences rencontre beaucoup de restrictions. Le Coran, par exemple, prévoit une sanction de 100 coups de fouet pour l'adultère, voir sourate 24, 2. Mais il exige également 4 témoins de l'acte de la pénétration sexuelle dans un cas d'adultère, ce qui, vous en conviendrez, est difficile à vérifier. La sourate 24, 2 ajoute également « à moins qu'il se repentisse », ce qui revient à annuler la sanction si la personne qui a commis le crime se repent. Quant à couper la main du voleur, la sourate 5, 48 a également une clause de repentir. Le juge doit aussi considérer la valeur des articles volés et l'existence éventuelle de circonstances atténuantes. Si un musulman meurt de faim sans qu'il y soit pour quelque chose et qu'il vole de la nourriture, la communauté locale, qui n'a pas su répondre à son besoin vital de nourriture, est aussi coupable que lui, et la sanction n'est pas appliquée. Il est vrai que certains pays musulmans ont réinstitué et qu'ils appliquent de temps en temps les peines de hudud. Mais cela est certainement davantage l'expression d'une volonté de fermeté à l'égard des criminels de la part de gouvernants autoritaires que la marque d'une authentique loyauté envers l'islam. Vers la fin du Xe siècle, les juristes ont estimé que tous les thèmes de droit importants avaient été étudiés. Ils ont décrété que les portes de l'interprétation, ijtihad, étaient fermées et que les musulmans devaient dorénavant consulter les décisions passées dans les livres des diverses écoles de droit, taqlid. Les gouvernants déterminent de quelle école juridique relève leur pays, tandis que, au niveau individuel, chacun peut choisir à quelle école de jurisprudence il se rattache pour les affaires de sa vie personnelle. La plupart suivent le rite qui est dominant là où ils vivent. Quand se présentent des cas qui n'ont jamais été traités auparavant ni encadrés par une loi précise, le juge, le gouverneur du pays ou même un individu peuvent demander l'opinion d'un mufti, conseiller juridique, pour cette affaire. Le mufti publie alors une fatwa, un décret. D'autres individus qualifiés peuvent rendre des décisions contraires. Mais une chose est importante. La décision doit être fondée sur les quatre racines de la loi. Les décisions prises après la fermeture des portes ne rentrent pas dans le cadre d'une école de jurisprudence et ne peuvent pas servir de base à une nouvelle décision. Attention. Ibn Taymiyyah et quelques autres théologiens hanbalites ont rejeté le concept de fermeture des portes de l'ijtihad, prétextant qu'elles n'ont jamais été fermées. Pour eux, l'islam répondait en effet à toutes les formes de questions et n'avait pas besoin d'être interrogé de nouveau. Texte sacré. Voici un exemple de fatwa. L'Empire ottoman a créé une charge de grand mufti, conférant à la personne en titre le statut de haut fonctionnaire du gouvernement. Un jour, on a demandé au grand mufti si les autorités locales devaient rendre obligatoire la construction d'une mosquée dans un village qui n'en possédait pas. Sa réponse, c'est-à-dire sa fatwa, fut oui. Et dans sa fatwa, il a cité des décrets officiels antérieurs, mais il a également rappelé l'importance de l'appel à la prière dans l'islam. Conseil. L'obtention d'un avis juridique est chose courante dans le cadre de l'exercice du culte au sein de la mosquée. Cet avis, fatwa, s'adresse d'abord aux familles musulmanes et tente de régler un certain nombre de problèmes relevant du cadre privé. Pour le reste, il faut savoir que le droit français, qui stipule la séparation des deux corps, ne donne aucun mandat aux théologiens musulmans pour lancer des fatwas publiques. À l'opposé de la Grande-Bretagne, où, il y a quelques années encore, des prédicateurs hargneux pouvaient prêcher leur doctrine et semer la division. La France a su préserver l'équilibre entre les deux univers, celui de la politique, bien commun de la nation, et celui de la religion comme croyance ou pratique particulière. C'est exactement ce que l'on appelle la laïcité. Celle-ci est le fondement de l'État-nation, son axe philosophique majeur. Toute la difficulté d'intégration de l'islam comme dogme vient de ce divorce premier, laïcité et religiosité. Chaque musulman a le droit de pratiquer son culte au sein des établissements religieux, les mosquées, qui lui sont réservées. À l'inverse, le reproche que font les musulmans aux responsables politiques, à commencer par les maires, c'est la difficulté de construire leur lieu de culte. Selon les responsables associatifs musulmans, obtenir une autorisation pour construire une mosquée relève du parcours du combattant. À Marseille, par exemple, c'est au terme d'une vingtaine d'années que la mairie a finalement accepté d'octroyer un terrain aux associations musulmanes pourtant légitimes et élus, pour qu'elles bâtissent enfin leur mosquée. La mosquée de la Lorraine, qui devait être construite à Nancy et qui est prévue depuis 1983, ne semble pas près de voir le jour.
F comme fiqh ou comme fatwa. Les théologiens juristes ont produit deux types de livres fondamentaux. Le premier type d'ouvrage porte sur les aspects théoriques. Le livre d'Al-Shafi'a, Risala, est un des plus anciens. Celui d'Al-Ghazali, Al-Mustafa, est un classique. Ses travaux ont abordé des domaines tels que les cinq catégories, les quatre racines de la loi et toutes les sources supplémentaires, ainsi que les règles selon lesquelles il est licite d'élaborer de nouvelles réglementations. Le second groupe de livres comprend des recueils de règles qui font jurisprudence. Il s'agit d'un récapitulatif de décisions de justice rendues dans des domaines très divers, avec une partie théorique montrant que le jugement en question est en accord avec les procédures de l'école juridique dont il relève et qu'il ne va pas à l'encontre de ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Ce récapitulatif comporte deux grandes parties. La première concerne les obligations envers Dieu, c'est-à-dire le culte et la pratique religieuse, tandis que la seconde traite des obligations envers d'autres personnes. Cette deuxième partie couvre de façon classique le droit de la famille, le droit commercial, le droit foncier, le droit pénal, ainsi que les peines et les procédures juridiques. Il existe également des ouvrages qui sont un récapitulatif des lois faciles à consulter et qui peuvent également inclure des commentaires sur des recueils de lois de telle ou telle école en particulier. Une fois les portes de l'interprétation fermées, il existe d'autres livres qui sont des recueils de fatwas prononcés par les muftis, théologiens juristes, d'une école juridique en particulier, ainsi que des ouvrages plus théoriques décrivant les qualifications requises pour devenir mufti, les devoirs liés à cette charge, ainsi que les procédures à suivre pour rendre une décision.
Dans l'islam sunnite, chacune des quatre écoles constitue une institution judiciaire valide, même lorsqu'elles sont en désaccord entre elles. Cette diversité, qui fait qu'une école peut être stricte sur une question, tandis qu'une autre est plus clémente, permet à chacun, voire à chaque gouvernement, de choisir, parmi les différentes législations élaborées par les quatre écoles, celle qui lui convient. Cette souplesse est appelée en arabe « ikhtiyar », qui signifie « la possibilité de choisir ». La notion d'amalgame ou de syncrétisme, « talfik », est également pratiquée en complément de celle de la sélection, « ikhtiyar ». Cette pratique consiste sur un point précis à combiner une partie d'un arrêt d'une école juridique avec une partie d'un arrêt d'une autre école. Ainsi, une personne ou un gouvernement peut proposer un nouvel arrêt judiciaire dans la mesure où il ne va pas à l'encontre d'un arrêt antérieur. Un exemple. La loi Hanafite dit qu'une femme dont le mari a disparu doit attendre jusqu'à la fin de la durée de vie prévisible du mari avant de pouvoir se remarier. Dans le rite malikite, la période d'attente est de 4 ans seulement. En adoptant une partie de l'arrêt malikite concernant la période d'attente dans un pays régi par la loi Hanafite, le pays évite d'imposer à la femme d'attendre indéfiniment un mari qui l'a abandonné afin de pouvoir elle-même se remarier. Une autre technique utilisée par des juristes hanafites et shafiites est celle du hiyal, subterfuge, qui consiste essentiellement à trouver une astuce pour éviter d'être piégé par un passage du Coran pris au sens propre. Par exemple, pour les négociants impliqués dans l'achat et la vente de grandes quantités d'articles, la prohibition de l'usure, prêt à intérêt, pose un problème moral, hier comme aujourd'hui, et même encore plus aujourd'hui, où les musulmans doivent fonctionner dans une économie mondiale capitaliste. Que ce soit pour acheter une maison ou investir dans les affaires, il faut souvent passer par un emprunt. Les avocats musulmans, grâce à un montage juridique complexe, ont trouvé un moyen d'élaborer des contrats qui remplissent la fonction du prêt à intérêt sans en avoir la forme. Au cours des 200 dernières années, les débats qui ont agité l'islam ont souvent eu trait à des problèmes de droit. À l'époque coloniale, la plupart des pays musulmans ont intégré le cadre juridique de l'Occident avec son corpus de lois regroupé en code de loi et le concept du pouvoir législatif chargé d'élaborer les lois. Ces codes de type occidental ont considérablement influencé le droit islamique en général, excepté dans le domaine du droit de la famille, où les lois de l'islam ont continué à s'appliquer. À retenir. Dans la pensée occidentale, la législation dérive de la volonté des personnes. L'islam traditionnel, en revanche, n'a aucun besoin de législation, parce que la loi est le modèle immuable de Dieu. L'approbation humaine n'est pas exigée pour la loi de Dieu. Après avoir acquis leur indépendance à l'issue de la période coloniale, les pays musulmans ont adopté le modèle de l'État-nation occidentale. Diverses solutions ont été mises en avant quant à la façon de concilier le droit islamique et le droit moderne des États. La pratique de la sélection, iktiyar, et de l'amalgame, talfik, est fréquemment invoquée par les musulmans qui considèrent que l'adhésion exclusive à une seule école juridique est inadéquate aujourd'hui. De nos jours, on évoque de plus en plus souvent des principes subsidiaires du droit tels l'istilah, jugement cherchant le bien commun, qui permet d'adapter la loi aux situations modernes. Les juristes traditionnels disent que les problèmes ont été provoqués par l'abandon de la loi islamique telle qu'elle a existé du XIe au XIVe siècle. Si les musulmans revenaient à la situation qui était celle des pays musulmans avant l'intrusion de l'Occident, les problèmes seraient résolus. Selon certains réformateurs musulmans, le problème est venu des intellectuels eux-mêmes. L'islam n'a pas à revenir au consensus classique tel qu'il existait à l'heure de la fermeture des portes de l'ijtihad. En revanche, il doit prendre modèle sur l'islam des trois premières générations et être disposé à prendre de nouvelles décisions juridiques établies sur le Coran et les hadiths. Certains réformateurs modernistes préconisent de distinguer les principes de base immuables du Coran et des hadiths de l'application spécifique de ces principes dans la culture du temps de Mohammed. Les situations contemporaines exigent de revoir l'application des principes de base. La sourate 4:3, par exemple, dit qu'un homme peut prendre jusqu'à 4 épouses à condition qu'il les traite toutes également. La sourate 4:129 dit qu'un homme ne peut pas traiter également toutes ses épouses. Les modernistes, tels que la figure de proue de la réforme islamique en Égypte, Mohamed Abdou, 1849-1905, rapprochent ces deux sourates qui, considérées ensemble, prouvent que le Coran est contre la polygamie. Ainsi, un homme ne peut avoir plusieurs épouses s'il les traite également. Mais aucun homme ne peut traiter plusieurs épouses à égalité. Par conséquent, aucun homme ne peut avoir plus d'une épouse. Depuis 1970, on assiste à un recentrage d'un certain nombre de pays musulmans autour du droit islamique. Dans certains pays, cela consiste uniquement à déclarer que la législation du pays repose sur la charia. D'autres proposent qu'un conseil des juristes islamiques approuve toutes les lois promulguées par l'État pour confirmer qu'elles ne sont pas en conflit avec la loi islamique. D'autres encore veulent aller plus loin et faire un effort plus systématique pour faire de la loi islamique la loi fondamentale de l'État. L'islam fait face aujourd'hui à d'autres questions de droit qui ne sont pas encore résolues, notamment comment s'articule la loi islamique par rapport au droit international moderne dans lequel la même législation s'applique à tous les pays au plan des relations internationales. Comment peut-on concilier les principes universels des droits de l'homme, selon lesquels tous les êtres humains jouissent de certains droits fondamentaux indépendamment de leur religion, de leur classe, de leur race, de leur sexe ou de leur groupe ethnique, avec la loi islamique traditionnelle qui limite certains de ces droits ?